Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bien, voilà, je vous laisse écouter. Voilà, donc c'est pour vous annoncer une émission sur les voyages. Alors, ça c'est la musique que certaines personnes pourront reconnaître, qui était l'interlude de la télévision.
Oui, les vieux comme nous.
Voilà, c'est ça. C'était le petit train, voilà. Quand il n'y avait plus de programme, hop, il passait ce...
Le petit train.
Le petit train.
C'était un petit train, une maquette.
Oui.
C'était rudimentaire. Puis il y avait un rébus inscrit sur les wagons.
Voilà.
Et moi, je me désespérais, je trouvais jamais les réponses.
Moi non plus, je crois. Hein. Ça ne devait pas être aussi évident que ça, mais bon.
Alors, ça parle
c'était
peut-être
pour
pas
les grands intellectuels, peut-être,
voilà,
qu'on n'est pas.
Voilà. Et qui réalisait ça? Je me souviens du nom de Maurice Bruno.
Bon, voilà. Très bien, parce que alors là, moi, pas du tout. Hein.
Oui, bon. Mais ça, c'est de la mémoire gratuite.
Voilà. Alors, ce qu'on vous propose pour démarrer, on va démarrer en chanson. Avec une chanson de Desireless qui s'appelle Voyage, Voyage. Alors, c'était une chanson des années 80, ça.
L'année 1987.
Ah, 87 quand même.
Ça ne nous rajeunit pas.
Bah non, voilà. Bon. Alors, on vous laisse écouter Desireless. Voilà.
Le son typique des années 80, oui, les synthétiseurs. Avec les...
Alors, maintenant, ce qu'on vous propose, on va vous... les deux premières histoires là, que vous allez entendre, elles sont extraites d'un recueil de nouvelles qui est intitulé « Très à table ». Alors là, ça sera pour l'émission 2020. Mais en fait, c'est un livre qui rassemble les écrits d'une quinzaine d'auteurs, donc depuis plusieurs années, et dont les bénéfices sont reversés au Resto du Cœur. Et donc, pour un livre à acheter, ça représente 4 repas. Pour oui. Les Restos du Cœur.
Bah, c'est pas
alors,
mal.
Alors, du coup, il y a déjà, je pense, il y a bien une dizaine de livres déjà qui sont.
Alors, j'ai regardé ça. Ça existe depuis 2014, donc c'est bien. Hein. C'est les éditions pardon, Pocket qui assurent cette édition. C'est 5 euros le livre. Et je trouve que c'est une super idée que je ne connaissais pas, moi.
Du coup, j'en ai plusieurs. Et puis, je pense qu'on va consacrer une émission juste à ça. Voilà.
Et tu parlais des Restos du Cœur. Donc, fin 2021, on en était à la 37e campagne. Et entre 2019 et 2020, il y a eu plus de 136 millions de repas distribués.
C'est quand même
énorme. Et dont 40% à destination de personnes mineures. Ça aussi, c'est significatif.
Bah oui. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, on va partir en voyage avec Véronique Ovaldé. Et donc, c'est une nouvelle qui s'intitule « N'en déplaise aux modernes » et qui est élue par Marie-Laure. Alors, avant, on va vous mettre une petite annonce d'aéroport. pour la
poésie.
Pour le signe du voyage, voilà. Et ça va enchaîner donc sur N'en déplaise aux modernes.
Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Pasajeros del vuelo 711 con destino a Nueva York, les rogamos presentarse a la puerta de embarque B.
N'en déplaise aux modernes. Rose Dufour avait toujours aimé voyager. Ou plutôt, la mère de Rose Dufour avait toujours voulu voyager. Dans ses plus anciens souvenirs, et si j'en crois la communauté scientifique, Dr Freud et ma propre expérience, il devait remonter à ses 3 ans. Rose était allée tous les jours, sa main dans celle de sa mère, se poster sur le pont au-dessus de la voie ferrée. Qu'il vente ou qu'il neige, selon l'expression consacrée, elle se pointait pour l'express de 16h42, qui faisait trembler la passerelle en métal, sifflée comme pour les saluer. C'est ce que sa mère précisait chaque fois. Il nous dit bonjour et filait vers l'est, l'étranger, les steppes herbeuses et les cosaques. Avec à son bord une poignée de privilégiés, non tant financièrement que symboliquement, qui dodelinaient en ne se rendant pas compte qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire et de fondamentalement contre nature dans le fait de se déplacer à une vitesse pareille. Des humains auraient dû, à n'en pas douter, ressentir un malaise effarant à se mouvoir à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Du moins, c'est ainsi que la petite Rose voyait les choses. Quand l'express de 16h42 fonçait sous la passerelle de trifouiller les genoux, elle imaginait en sautillant, parce qu'elle n'aimait pas la trépidation du sol dans ses petites guiboles, que les passagers étaient plaqués au fond de leur siège et hurlaient, comme elle dans le manège de la place du marché, quand elle montait dans le taxi de Oui Oui, elle ne pouvait pas les imaginer dodelinant tranquillement. Après cela, mère toute ragaillardie et fillette poliment patiente, elles allaient chercher le pain du soir, but officiel de leur sortie, et rentrer à la maison. En général, la mère de Rose, qui avait vaguement préparé un frichti pour le dîner, s'asseyait à la table de la salle à manger, tricotait un pull pour Rose, avec un jacquard d'ours polaire, de panda ou de boa constrictor, n'importe quel animal, tant qu'il était exotique, en regardant un documentaire télévisé sur un bout du monde ou l'autre. Rose s'installait sur le canapé et, selon l'âge qu'elle avait au moment des fêtes, s'endormait, mangeait des trites ou feuilletait nonchalamment l'un des innombrables catalogues que sa mère récoltait dans les 2 agences de voyage de la ville. Vers 8 ans, Rose tenait un cahier dans lequel elle collait les images de tous les endroits où elle rêvait d'aller. Dixit sa mère, qu'elle avait soigneusement découpé dans les catalogues.
Il y avait bien sûr des plages à cocotiers et sable fin, mais aussi, ce qui ne laissait pas de dérouter sa mère, des photos de chambres d'hôtel immaculées et astucieusement agencées. Rose adorait s'imaginer dans ces chambres d'hôtel. Cela faisait d'ailleurs partie des gentilles rêveries érotiques qu'elle s'accordait le soir pour entrer dans le sommeil. L'érotisme tenait à la chambre et non à ce qui aurait pu s'y passer. Il s'agissait à proprement parler plus de rêveries voluptueuses. Elle pouvait se déplacer dans ses chambres comme elle l'entendait, les pieds enfoncés dans la moquette épaisse de 10 cm, ou alors vautrée sur le lit en train de prendre son petit déjeuner. Sur les photos des chambres, il y avait souvent un plateau en métal ouvragé, posé sur le lit avec une théière, un jus d'orange, une grappe de raisin, un journal et autres béatitudes matutinales. Quand le père de Rose rentrait du travail et qu'il les trouvait, l'une devant un programme sur la grande barrière de corail et l'autre à cocher des chambres d'hôtel, il était impossible qu'il ne prît pas la chose comme un reproche, ou du moins comme une légère accusation concernant ses manquements. En effet, voyage, chez les Dufour comme chez beaucoup d'autres, signifiait vacances. Mais qui disait vacances chez les Dufour disait camping. Rose aimait bien le camping, parce qu'ils allaient toujours à la résidence de plein air, les Biches, en Vendée, au milieu d'une pinette qui donnait sur les dunes. C'était son père qui appelait le camping la résidence de plein air, durant les soirées diapo avec la famille ou les voisins. Rose appréciait particulièrement qu'à l'intérieur du cercle formé par le camp, ses parents la laissaient faire beaucoup plus de choses qu'à la maison, parce que son père partait souvent à la pêche à la grenouille ou au ramassage des cagouilles dans les dunes, vu que parfois il y avait des étés vraiment pourris côté météo, et que sa mère oubliait de la surveiller, reprise par sa neurasthénie estivale à remplir des grilles de mots croisés, écouter Pierre Belmar préparer des cuisses de grenouille au persil et à l'ail et faire 4 fois par jour le chemin plage-caravane. Rose pouvait ne pas se laver les dents, se coucher tard, prendre une douche 1 jour sur 3 et courir à droite à gauche à partir du moment où elle ne sortait pas des limites du camping. Quand Rose eut 20 ans, elle trouva un travail dans le bureau français d'une fabrique de pâte à papier norvégienne. Elle commença à voyager. Sa mère fut enchantée. Rose lui envoyait scrupuleusement une carte postale de tous les endroits où elle se rendait. L'usine de pâte à papier fut rapidement rachetée par un groupe chinois, puis par un groupe coréen, et Rose se mit à sillonner la planète. La mère de Rose, quand on lui demandait des nouvelles de sa fille, répondait toujours qu'elle avait un bon emploi qui la faisait beaucoup voyager. Les gens approuvaient. Tout le monde sait que le fait de voyager est le signe d'un bon emploi et d'une vie bien réussie. Pour tout vous dire, et cela ne vous étonnera guère, ce qu'aimait particulièrement Rose, c'était les aéroports. Elle se sentait bien et nulle part dans un aéroport. Elle aimait le calme qui y régnait, la déambulation subaquatique des voyageurs, l'attente, le sommeil inconfortable sur les sièges trop durs, la nourriture internationale, les sourires plastifiés du personnel au sol, les boutiques de souvenirs, les toilettes impeccablement propres, plus grandes que son appartement, le murmure permanent, les gens qui priaient au milieu des salles d'embarquement, ceux qui s'interpellaient discrètement dans des langues impossibles, ceux qui dormaient la bouche ouverte, abandonnés, ceux qui s'étaient équipés, grosses chaussettes dans les sandales, coussins pour la nuque autour du cou en permanence, pantalons mous et vestes polaires, ceux qui parlaient un tout petit peu trop fort dans leur téléphone en faisant les 100 pas, ceux qui essayaient de faire dormir les petits-enfants, ceux qui se disputaient calmement. Et puis surtout, ce que Rose aimait, c'était la sensation physique de l'impatience, de l'attente et de la résignation, cette sensation de fatalité inhérente à tout voyage aéroporté. Elle chérissait cette impression d'être hors du monde, comme si elle s'était retrouvée sur une aire d'autoroute géante. Tout y était feutré, luisant, civilisé, interchangeable. Toutefois, ce que Rose aimait encore plus que les aéroports, vous vous en doutez, je vous sens sagace et attentif, c'était rentrer chez elle, retrouver son chat, ramasser son courrier et passer un coup de fil à sa mère pour lui raconter son séjour. Un matin qu'elle devait prendre l'avion pour Calcutta, le groupe norvégo-sino-coréen venait de racheter 2 imprimeries indiennes. C'était là que tout se ferait bientôt, l'Occident n'étant même plus prêt à payer les prix de l'impression chinoise. Elle ouvrit les portes de l'armoire à pharmacie pour trouver son dentifrice petit format et elle se vit dans les trois miroirs plaqués sur les battants. Elle se vit multipliée à l'infini. Elle eut un vertige. Elle était de plus en plus minuscule. Et tout au fond, son visage disparaissait dans une prime crise. Elle devenait floue, altérée. Elle ressentit un choc. Elle se dit qu'à force de bouger dans tous les sens, elle allait se perdre en chemin, se désintégrer, que chacune des cellules de son corps finirait par former comme une traîne derrière elle, particules de fées clochettes, et qu'il ne resterait plus rien d'elle. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais voulu voyager. Elle avait seulement voulu se souvenir des voyages, ou qu'on lui relate des voyages. Elle a pensé une histoire qu'on lui avait racontée qui concernait le poète Édouard Glissant. Il avait souhaité écrire un livre sur l'île de Pâques, mais ne pouvant s'y rendre en raison, on ne savait plus bien, de problèmes de santé ou d'un agenda trop rempli ou de l'aquabonisme, il y avait envoyé sa femme, la plasticienne Sylvie Sema, afin qu'elle lui rapporte un maximum d'informations. Grâce sans doute à la nature particulière de leur relation et au talent de chacun, il avait écrit « La Terre magnétique », un livre d'une précision extrême et incroyablement évocatrice pour quelqu'un qui n'avait jamais mis un pied sur l'île de Pâques et n'avait pas bougé, grand Dieu, de sa terrasse. Alors, Rose Dufour, somptueusement casanière, qui n'aimait que la routine et la répétition du même, décida que c'en était fini. Elle ne voyagerait plus. Elle cultiverait son jardin, comme disait l'autre. Elle se ficherait de renoncer au marqueur social valorisant du voyage. Elle se ferait plante ou, encore mieux, minérale. Elle achèterait un billet d'Orient Express pour sa mère et l'appellerait pour solennellement s'engager auprès d'elle à ne plus faire le tour du monde à sa place. À ce moment, au moment où elle envoya tout valser, elle fit une petite pirouette sur elle-même et devint, n'en déplaise aux modernes, la femme la plus heureuse du monde.
Voilà, un joli texte.
Oui, assez poétique, justement, en parlant de poésie.
Oui. Donc, Véronique Ovaldé, elle est née le 12 avril 1970 au Perreux-sur-Marne, et donc c'est une écrivaine française. Alors, quand elle évoque son enfance, elle la décrit souvent comme étant moche, et explique que c'est pour cela qu'elle aime se raconter des histoires. Alors, ses ouvrages connaissent un succès grandissant, et depuis le début de sa carrière littéraire, elle va bénéficier d'une reconnaissance de la librairie et de la critique. D'ailleurs, en 2008, son cinquième roman, « Et mon cœur transparent », va être récompensé par le prix France Culture Télérama. En 2009, son sixième roman, « Ce que je sais de Vera Candida », reçoit le 18e prix Renaudot des lycéens, le prix Roman France Télévisions 2009 et le Grand Prix des lectrices Elle en 2010. Bon, bien, trois prix pour le même livre, c'est quand même... Voilà, alors ses romans sont traduits dans de nombreuses langues, hein, que ce soit en italien, espagnol, allemand, roumain, portugais, anglais, coréen, chinois, finnois même, voilà, etc. Elle est également éditrice chez Point, responsable du roman noir, de la poésie et de la collection Signature. Auparavant, chez Albin Michel, elle a notamment travaillé sur le Club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guernassia, qui est le prix Goncourt des lycéens 2009, et Jusque dans nos bras d'Alice Zéniter. Elle est connue comme la reine du mot juste, et dans Des vies d'oiseaux, publié en 2011, elle écrit... tu peux peut-être lire ce qu'elle écrit.
Elle écrit « Si l'on avait, comme Taïba, une vague tendance à la mélancolie, le front de mer déserté, les 14 kilomètres de plage venteuse et la mer gris-timbale pouvaient dangereusement agir sur le moral. Aussi, valait-il mieux fuir la ville le temps qu'elle recouvra son soleil au zénith et sa population au monoeil. on ne citera pas de marque.
Voilà, donc je sais pas, tu voulais ajouter des petites choses, toi
En regardant un petit peu certaines de ses interviews, tout ça, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup sur l'imaginaire, un petit peu l'étrangeté dans ses romans. Elle veut, dit-elle, réinventer le réel. Elle dit que, aussi, quand j'écris Mon lecteur est au plus près de ce qu'il se passe dans ma boîte crânienne. Tout ça donne envie de la lire. Et puis j'ai un petit extrait d'une interview qu'elle a donnée à l'émission Boomerang sur France Inter le 6 février 2019, où elle parle très bien de la littérature et au milieu, il y a le verbe voyager. Mmh. Je résiste pas au fait de
alors,
lire.
Voilà, alors dis-nous.
Un livre, qu'on l'écrive ou qu'on le lise, demande de la vigilance. Et vivre aussi, bien sûr, demande de la vigilance. Le tout est de voyager le plus possible en zigzag vers la mort et d'avoir du courage. Avoir du courage, c'est ouvrir les yeux dans l'obscurité et ne pas avoir peur de tomber. Et quand on écrit, on tombe souvent et on a peur souvent. Peur d'être mauvais, peur de l'échec et du ridicule, peur d'habiter l'enfer des mauvais écrivains. Il faudrait que l'on cesse de nous ressasser que la littérature est morte. Pour ma part, je continue de croire en la fiction, en l'invention, en la prolifération des mots. Je continue de croire que la littérature est la réponse idéale et imparfaite à notre appétit d'histoire et à notre désir de langage et de musique.
Ah, c'est bien ça.
Pas mal.
Un beau texte.
J'aurais bien aimé l'écrire.
Voilà, bah oui, c'est ça. Des fois. Ah là là. Alors, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est d'écouter une autre nouvelle, donc toujours extraite de ce même recueil 13 à table, là, donc l'édition 2020. Et donc là, on va entendre une nouvelle de Philippe Besson, lue par Viviane. Et la nouvelle s'intitule « La fin de l'été ».
La fin de l'été. Je n'étais pas retournée à Big Sur depuis des années. En fait, je n'y étais pas retournée depuis le jour où Josh m'avait dit « Je crois que les choses ne seront pas possibles entre nous. » Et pendant toutes ces années, je m'étais efforcée de m'inventer une existence et, d'une certaine manière, j'y étais arrivée. Parfois, on n'a pas le choix et on réussit à continuer à vivre. Alors pourquoi ai-je soudain éprouvé le besoin irrésistible et biscornu de revenir sur le lieu de mon bannissement? Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Il ne se produit aucun incident. Les circonstances ne s'y prêtaient pas, non. Ça s'est simplement imposé comme une évidence. J'ai dû penser, le temps s'est écoulé et il guérit de tout, paraît-il. Alors sans doute que maintenant j'en suis capable. Sans doute que maintenant, le mal s'est apaisé. J'ai quitté Pointe-Loma dans le petit matin. C'est là que j'habite désormais. Un endroit que j'ai choisi il y a une dizaine d'années, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, parce qu'après c'est la frontière, c'est un autre pays, ce n'est plus l'Amérique. Mais aussi parce que, où que porte le regard, ce sont les eaux, à l'infini. Du reste, la ville est cernée par le Pacifique. Vous connaissez Pointe-Loma sans le savoir. C'est de là que Lindbergh a fait décoller pour la première fois son Spirit of St. Louis. Les touristes, eux, viennent pour visiter le phare ou pour les plages, mais repartent vite quand ils voient les deux bases militaires et le cimetière. Je travaille au village dans une des boutiques qui vendent du matériel pour la navigation et pour la pêche. La rue est bordée de jacarandas qui fleurissent au début du mois de juin. Quand je quitte Pointe-Loma ce matin-là, j'aperçois dans mon rétroviseur une nappe de brume plongeant la péninsule dans une sorte de halo orange. Et puis je regarde devant. La route est dégagée. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, je devrais mettre environ 10 heures pour parvenir à destination. Sur la Highway 5, étrangement fluide, je dis étrangement parce que d'habitude, il y a des embouteillages interminables, les voitures sont à touche-touche, on met des heures pour parcourir des distances infimes. Les panneaux se succèdent, désignant des villes que je contourne toutes, dont je n'aperçois que les centres commerciaux en périphérie. Encinitas, Carlsbad, Oceanside, San Clemente. Je laisse sur le côté les sorties, les embranchements, les stations-service, les réclames géantes. De toute façon, je ne viens jamais par ici. Quand Josh a énoncé l'impossible, je me suis rendue directement à Point Loma et n'en ai plus bougé. Oui, depuis lui, j'ai opté pour une existence sédentaire, enracinée. Les gens prétendent que c'est curieux de vivre sur un littoral quand on recherche l'immobilité. Mais les gens ne savent pas tout. J'ai appris à résister à l'appel du large, au désir d'ailleurs. Sauf aujourd'hui, sauf ce matin-là, quand une voix me commande de retourner à Big Sur. Au bout de 2 heures de route, je décide de faire une première halte à Long Beach. On raconte que le port est un des plus grands du monde. Je m'en fiche un peu, je n'ai jamais été attirée par le gigantisme. Seul m'intéresse le Queen Mary, qui reste à quai et qu'on a transformé en hôtel. Mon père m'avait emmené le voir alors que j'avais 7 ou 8 ans. Oui, je suis cette petite fille minuscule dans une robe beige, légère, avec un ruban dans les cheveux, qui contemple une masse d'acier et s'en émerveille. J'ai bêtement envie de vérifier que la réalité est conforme à mon souvenir. Mais tout de suite, je prends conscience de mon erreur. Les abords du navire sont bondés, envahis par des touristes, des étrangers dont je ne comprends pas la langue, des Texans à qui on a assuré qu'il s'agissait d'une attraction immanquable, et même par des jeunes mariés accompagnés de leur famille endimanchée. Sur le quai, je repère des marins d'opérette et on me promet des spectacles pour les enfants. Je savais pourtant que la mémoire embellit tout et qu'il ne faut jamais risquer de se confronter à l'enfant qu'on était. Je fais demi-tour pour reprendre la voiture que j'avais garée dans un parking avoisinant. De toute façon, la foule ne me vaut rien. Et le devoir m'appelle, car je n'en démords pas. C'est bien une sorte d'obligation bizarre qui me pousse à rouler vers le nord, vers le lieu du bonheur fracassé. J'allume la radio et finis par tomber sur une fréquence qui ne diffuse que de la musique des années 70. Ce n'est pas une musique que j'aime particulièrement, mais elle convient à ce voyage. Un chanteur triste parle de sa jeunesse consumée. Il prétend que son insouciance s'est perdue sans qu'elle ait eu le temps de s'en rendre compte. Je descends la vitre pour qu'entre dans l'habitacle l'air du large, le vent rapporté du Pacifique. Je m'efforce de ne penser à rien, je fixe le bitume, les lignes de démarcation, j'avance sans faiblir. À l'ouest, j'aperçois soudain des avions qui décollent, l'aéroport est tout à côté. Je songe à ceux qui partent loin, volent longtemps et mettent de la distance. Ils ont le goût du dépaysement et parfois des envies d'exil. À ceux qui débarquent aussi, avec des rêves plein la tête. Mais combien les accompliront? Je contourne LA où je suis née et où j'ai grandi. C'était dans les lacets de Laurel Canyon, dans une maison nichée sur une colline, avec des arbres tout autour, et le silence, un silence paradoxal dans cette ville-monde où mon père avait choisi cette retraite après le décès de ma mère. J'ai grandi parmi les arbres, personne n'y croit, et pourtant c'est vrai. J'imagine que c'est pour cette raison que j'ai tant aimé Big Sur. La première fois, il m'a semblé que je retrouvais un peu de nature, les sols en pente, les pins odorants, sauf que dans mon enfance, le monstre était juste à côté. Il suffisait de parcourir quelques miles pour plonger dans sa gueule, alors qu'à Big Sur, on sait qu'on ne sera rattrapé par rien, à part le malheur, peut-être. Aurait-il deviné ma présence dans les parages? Disposerait-il d'un sixième sens? Mon père, en tout cas, cherche à me joindre en ce moment précis. Son nom s'affiche sur l'écran de mon téléphone. Je préfère ne pas décrocher. Car je sais qu'il ne pourra pas s'empêcher, une fois de plus, de s'inquiéter pour moi. Il n'a jamais compris la mélancolie qu'il croit deviner chez moi. Il me glissera de nouveau, l'air de rien. Alors, est-ce que tu as enfin quelqu'un dans ta vie ? Je suis sûre que des garçons s'intéressent à toi. Tu ne vas pas les repousser éternellement. Il ne faut pas rester seule, j'en sais quelque chose. Vous me direz, j'aurai le droit de lui répondre, « Papa, ça ne te regarde pas. » Ou « J'ai des histoires, ne va pas croire, mais ce n'est jamais le bon. » Ou encore « Ma solitude, je l'aime bien. » Cependant, je ne lui répondrai rien, je me connais. Et je suis fortiche pour éluder, depuis le temps. Pour oublier la sonnerie intempestive, je contemple, depuis la freeway, les collines de Bel Air. On dit, pour s'en désoler, que c'est un quai d'eau pour les riches. Moi, je peux admettre que les riches veuillent vivre avec leurs semblables et ne pas être dérangés. Je peux surtout comprendre qu'on veuille vivre entre soi. Je continue obstinément de rouler entre montagnes et océans. J'aperçois les curieux stationnant leurs véhicules là où des points de vue leur sont dûment indiqués par des pancartes. Aussitôt, ils tendent leur téléphone portable en direction de la côte et ne la regardent finalement qu'à travers un écran de quelques centimètres carrés, l'emprisonnent pour la diffuser dans la foulée sur des réseaux sociaux et faire accroître qu'ils ont profité d'un instant de grâce dans un paysage de rêve alors qu'ils se sont contentés de fixer une image sans faire attention au lieu même, sans humer l'air, sans être saisi du vertige. J'approche maintenant de Santa Barbara, signalée par des allées de palmiers, et dont on vante généralement le charme espagnol. Mais je ne m'arrête pas non plus, persistant à me tenir dans la solitude, dans le déplacement solitaire. J'ai envie que ce ne soit qu'une histoire entre le rivage accidenté et moi, entre les plages inaccessibles et moi, entre les versants abrupts et moi. La route, par endroits, se fait plus sinueuse. Je gagne en altitude. Je consulte la jauge de mon réservoir d'essence. Il ne faudrait pas que je tombe en panne dans les parages. Par moments, on ne croise pas âmes qui vivent sur une longue distance. La radio diffuse « A Horse with No Name ». Les chansons nous font croire que les déserts nous préservent de la pluie. Je mets la musique un peu plus fort. La silhouette d'un ranch se dessine sous la chaleur vibrante du bitume des vaches broutent une herbe jaune. Dans ce dénuement, les images de Big Sur commencent à m'assaillir. Je revois le banc de bois, un jardin en étage, les branches tordues d'un pin et au loin, une baleine abandonnant de l'écume dans son sillage. Je me souviens qu'il a fallu très peu pour que tout dégénère. Je trace ma route, de Montpellier en colline de Bruyère, et toujours avec la présence bienveillante des eaux venant cogner contre la roche. De temps à autre, je remarque des surfeurs dans leur étrange combinaison. J'avoue que ce n'est pas leur grâce sur la vague qui me séduit, mais leur fatigue quand ils marchent contre les flots pour revenir vers le rivage, leurs planches posées contre la hanche. Josh ne faisait pas de surf, mais il m'avait emmené une fois sur la plage de Pfeiffer, qui n'est pourtant pas facile d'accès. Nous nous étions assis sur le sable, nous avions regardé les rouleaux. C'est là que je lui avais parlé de la mort de ma mère, emportée par la maladie peu de temps après ma naissance. Là que je lui avais confié que c'était parfois difficile de ne pas avoir eu quelqu'un qui montre le chemin. Nous n'étions pas restés. Il faut dire qu'il me préférait dans la frivolité et dans la pénombre. Je suis perdue dans mes pensées lorsqu'est signalée la sortie menant à Cambria. Le moment est venu de faire une nouvelle halte. J'ai roulé beaucoup trop longtemps, la fatigue et la faim me gagnent. Sur la route principale, des restaurants bon marché. J'en choisis un au hasard. Tandis que j'avale une coupe salade, je remarque un couple. Il est plus jeune qu'elle, nettement plus jeune. Il caresse sa main posée sur la table en lui souriant. Autour, les gens leur jettent des coups d'œil. Qu'est-ce qui les choque? L'amour qui se montre ou la différence d'âge? Les amoureux s'en moquent, ils continuent à se dévorer des yeux. Ainsi, il est possible de s'aimer au grand jour et de croire que ça va durer toujours. À la sortie du restaurant, je repère une pompe à essence, je remplis le réservoir. En levant la tête, main refermée sur le pistolet, j'aperçois des maisons perchées sur les collines, des villas comme suspendues dans le vide ou accrochées à des chaînes. La vie doit être agréable en ce lieu reculé. Rien ne doit arriver par ici. En repartant, je fais un crochet par Moonstone Drive, qui est l'attraction locale, si j'en crois le pompiste qui a beaucoup insisté. D'un côté d'une route toute droite, des motels et des cottages conjureraient sortie d'un roman anglais. De l'autre, une plage de sable noir et de galets multicolores, coincé entre un océan agité et un chemin aménagé dans la bruyère. Je me dis que j'aurais pu facilement choisir cet endroit plutôt que Point Loma quand il s'est agi d'inventer un nouveau départ. Mais la vérité, c'est que je voulais m'éloigner le plus possible de Big Sur et de ses souvenirs terribles. Le plus loin, c'était Point Loma. Je devrais parvenir à destination dans moins de 2 heures désormais. À la radio, je reconnais la voix caverneuse de Debbie Harry. Blondie chante les cœurs de verre et les amours enfuis. Les chansons peuvent faire mal quand elles énoncent des vérités cruelles au moment où on ne s'y attend pas. Aussitôt, je suis envahie par la nervosité et je me demande si j'ai bien fait d'obéir à la folle impulsion qui m'a fait entreprendre ce périple. Si j'y réfléchis 30 secondes, je suis bien obligée d'admettre qu'il n'existe aucune bonne raison qui me ramène dans ce lieu maudit. Aucune. Je n'entends même que des signaux d'alerte, ceux qui m'en ont tenu à l'écart jusque-là. Alors quoi? Renoncer? Il serait simple de rebrousser chemin, de faire la route à l'envers. Je ne me serais livrée qu'à une virée bucolique le long du Pacifique. En ne perdant pas de temps, je pourrais même être rentrée chez moi pour la nuit. Pourtant, je m'ingénie à poursuivre, à rouler sans faiblir vers le creuset du malheur. Lorsque j'entre finalement dans Big Sur, tout m'est redonné en un instant. Les falaises tombant à pic dans le Pacifique, les chutes de Macquarie, où j'avais sérieusement envisagé de mettre fin à mes jours, les canyons pourpres, les forêts de chênes et de séquoias, où il est si facile de se perdre, et même le léger brouillard qui nimbe la côte. Quand je descends de voiture, je songe. Il s'est écoulé 10 années. Aucune chance qu'on me reconnaisse. J'étais une jeune fille alors, 20 ans à peine. J'ai beaucoup changé, et puis, de toute façon, qui à l'époque aurait prêté attention à une étudiante de passage? Qui se souviendrait d'elle? Néanmoins, je marche en baissant la tête. Mes longs cheveux roux mangent mes joues, on ne sait jamais. Les vieillards, ceux qui ne sont jamais partis, qui mourront ici et qui sont vaguement sorciers, voient peut-être ce que les autres ne voient pas. Que je vous dise, j'étudiais la littérature américaine à UCLA. Un de nos professeurs nous avait assuré que si on aimait Jacques Kerouac, Big Sur constituait un passage obligé. Pourtant, ce n'est pas sur les traces de Kerouac que je m'étais lancée. mais sur celle de John Robinson Jeffers, un poète oublié qui a beaucoup écrit sur la côte californienne. On prétend que son pessimisme envers le genre humain l'avait amené à se retirer du monde et à choisir un face-à-face avec la nature. Je m'étais reconnue en lui. On est romantique à 20 ans. Romantique et tragique. Ça m'est resté. Je marche en direction de la villa au rondin de bois, celle qui appartenait aux parents de Josh, où on se retrouvait en cachette, lui et moi, cet été-là, où j'ai été heureuse. Cela ne m'était jamais arrivé, je crois bien, jamais arrivé d'être heureuse. Elle non plus n'a pas changé, elle a juste vieilli, par endroits, le bois s'est écaillé. Les volets sont fermés, est-elle désormais inhabitée, ou bien les propriétaires en ont-ils fait une résidence secondaire qu'ils ne rouvrent qu'au beau jour? Au moins, je ne serai pas aperçue. Mon seul regret est de ne pas pouvoir jeter un œil à la chambre qui accueillait jadis nos amours coupables. Car c'est là, en effet, que Josh m'a fait rouler dans les draps la première fois. Je me souviens que sa peau était douce et que j'ai à peine eu le temps de remarquer les grains de beauté qui parsemaient son torse. Il était impatient, j'étais terrorisée, il y a eu de la maladresse, de la rudesse. Mais j'étais déjà éprise, je ne lui en ai voulu de rien. Et au fond, c'est peut-être ça qui a fabriqué l'issue dramatique. Ma soumission d'emblée à son désir. Il a pensé que j'obéirais toujours, y compris quand il en viendrait à me congédier. J'attends qu'il ne circule plus de voitures sur la route, je prends garde de n'être repéré par personne dans les alentours et j'enjambe la clôture. Puis je contourne la maison et voilà que je foule l'herbe grasse du jardin en pente qui donne sur l'océan. Mon Dieu, tout est exactement comme je me le rappelais. Même le petit banc de bois est toujours à sa place. Un soir, Josh y avait tenu ma main pendant de longues minutes et j'en avais déduit qu'il m'aimait. Le pain tordu n'a pas été coupé. Il bouche un peu la vue, pourtant. Je présume que son originalité l'a sauvé. C'est auprès de ce pain qu'Aminta, Josh a prononcé les mots fatidiques, ceux que je n'attendais pas, ceux que je n'avais pas vu venir, ceux qui démentaient notre intimité, ceux qui allaient précipiter la fin de l'été. Je crois que les choses ne seront pas possibles entre nous. Je ferme les yeux pour occulter ce souvenir douloureux. Je respire à plein poumon, je veux humer l'odeur du pain et le parfum salé des embruns. Je ne veux pas souffrir. Je veux ne pas souffrir. Je pense encore que j'en suis capable. Je pense, comme à la minute exacte où j'ai décidé d'entreprendre ce voyage, que j'en suis enfin capable. Je veux m'assurer que je ne me suis pas trompée. Les yeux clos, je me remémore ce poème de Robinson Jeffers que j'avais recopié alors et que j'ai fini par connaître par cœur. Je le déclame en silence. J'ai un peu changé mes habitudes. Je ne peux plus marcher à tes côtés le soir le long du rivage, sauf dans une sorte de rêve. Et toi, si tu rêves un moment, tu m'y apercevras. Quand je rouvre les yeux, l'océan rugit en contrebas. Les vagues viennent s'écraser contre les rochers rouges. Une volée d'oiseaux affolés s'éparpille. Je vais mieux. Oui, je vais mieux. J'ai réussi à éloigner les mots méchants de ma défaite. Ils se sont envolés avec les oiseaux, ou bien le vent les a emportés au loin. Et tout est à sa place. Je vais m'asseoir sur le petit banc. De là, la vue est à couper le souffle. Je songe aux touristes qui s'arrêtent sur le bord des routes, armés de leur téléphone intelligent, Il paierait cher pour une vue pareille. Je souris. Quand je souris, je ne vois pas le jeune homme énonçant la rupture. Je ne vois pas la jeune fille dévastée. Je ne vois pas le réflexe qu'elle a aussitôt, ce geste qu'elle a accompli sans réfléchir. Pousser le jeune homme, le pousser violemment, je ne vois pas le jeune homme tomber, je ne vois pas son corps rebondir contre les parois de la falaise, se disloquer et s'écraser contre les rochers. Je ne vois pas les vagues qui viennent lécher le corps et laver le sang. Je ne vois que le vert des pins et le bleu du ciel.
Voilà, vous avez entendu cette triste histoire.
Oui, la fin de l'été, mais nous, on n'est même pas au début.
Mais il commence à faire bien chaud quand même.
Oui,
hein,
quand même.
Voilà. Donc, alors, Philippe Besson, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Donc, il est né en janvier 67 dans les Charentes. Voilà, c'est quand même devenu un romancier de premier plan. Qui est traduit dans plus d'une dizaine de pays quand même, dont les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie. Il a publié une vingtaine de romans, dont entre autres Son frère, qui a été adapté au cinéma par Patrice Chéreau, et Arrête tes mensonges, qui a été pris Maison de la Presse, et dernièrement Dîner à Montréal.
Oui, alors tu parlais de son premier roman en littérature en 2001, donc il s'agissait d'un roman intitulé « En l'absence des hommes » et en fait, il met en scène Marcel Proust et ça a eu un grand succès. Il a eu le prix Emmanuel Robles, donc ça doit être assez intéressant. Et puis, dernièrement, là, dans tes propos, tu parlais d'un autre roman, Son frère. Alors, il met en scène deux frères qui se retrouvent parce que l'un est gravement malade et va mourir. Il a une maladie qui détruit les plaquettes sanguines et donc provoquant un risque d'hémorragie permanent. Donc chaque minute, dès lors, dans cette histoire, mérite, tu sais, d'être vécue jusqu'au bout intensément.
Ouais,
et c'est un peu autobiographique parce que, justement, Philippe Besson a failli mourir de ce type de maladie. Donc, tu vois, il doit injecter du vécu, comme souvent.
Bah oui, oui. Alors, pour finir cette émission, je vous propose une toute petite nouvelle qui dure juste 4 minutes, intitulée « Une place dans un train » et qui a été écrite par Alain Fleischer, dont on avait parlé dans la dernière ou l'avant-dernière
émission. On lui a consacré une émission.
Voilà.
Un artiste polymorphe.
Voilà, c'est ça. Donc là, on ne vous en dira pas trop sur lui, puisqu'on en avait déjà beaucoup dit avant. Et donc cette histoire, eh bien, elle est lue par Gérard. Voilà, alors je vous laisse écouter « Une place dans un train ».
Le train plat couché, ce train bleu numéro 5771 à destination de Vintimille, départ 21h17, partira voie 8. Il dessert Toulon, les Arcs Draguignan, Fréjus Saint-Raphaël, Saint-Raphaël-Valescure, Cannes, Antibes, Nice-Ville, Monaco-Monte-Carlo, Menton, Vintimille.
Une place dans un train. Le quai de la gare est désert et le train arrive. Je monte dans la voiture qui s'arrête devant moi. Comme je la trouve vide, je ne cherche pas la place indiquée sur mon billet et je m'assois n'importe où. Au moment où le train repart, un homme pénètre dans la voiture et s'avance lentement dans le couloir sans bagage. Arrivé devant moi, sans dire un mot, il montre du menton la place où je suis assis et je comprends que c'est la sienne. Bien que tous les autres sièges soient libres, je me lève et je vais m'asseoir ailleurs pour ne pas contrarier celui qui semble tenir à la place qu'il a réservée. Je suis prêt à comprendre toutes les superstitions, tous les rituels pour prévenir les imprévus et conjurer les accidents du sort. Nous roulons quelque temps à travers une campagne pluvieuse, sans que quiconque se montre dans la voiture où nous sommes les seuls passagers. Soudain, des bruits et des voix se font entendre à la fois devant et derrière moi. Des policiers viennent de faire irruption par les deux extrémités du couloir, comme pour empêcher toute tentative de fuite. Attentif au numéro des sièges, il me dépasse sans s'intéresser à moi, alors que nous sommes deux individus susceptibles d'être concernés. Arrivé à la hauteur de l'autre, celui à qui j'ai rendu sa place, ils échangent avec cet homme quelques mots à voix basse. Je vois qu'il lui passe des menottes au poignet sans qu'il proteste et qu'il se laisse tirer vers la sortie alors que le train ralentit en vue de la prochaine gare. Dès que nous sommes à l'arrêt, l'homme et les quatre policiers qui l'encadrent descendent sur le quai. C'est une petite ville grise dont je ne connais pas le nom. Je ressens le passage d'un train à grande vitesse en sens inverse dans un fracas soudain, comme une ponctuation violente dans un drame qui m'a frôlé de près. Je m'interroge. Si l'autre passager n'avait pas voulu que je lui rende sa place, serais-je à la sienne en cet instant, repéré par les policiers, arrêté et menotté, conduit je ne sais où, pour Dieu sait quel motif? Je me demande encore où cet homme voulait se rendre en ayant réservé cette place dans ce train. Ai-je trahi cet inconnu? L'ai-je dénoncé en lui rendant son identité, révélé par un numéro de siège sur un billet de train? Un mauvais numéro, semble-t-il, auquel pourtant il tenait. Alors qu'il s'éloigne vers son destin sans résistance, encadré par les quatre policiers, j'éprouve envers cet autre voyageur, avec qui j'ignore quel voyage j'ai partagé, un sentiment infini de fraternité et de culpabilité. J'aimerais lui dire que parfois, il faut mieux quitter un train tristement que d'y rester prisonnier jusqu'à une destination fatale. Je suis seul désormais, et je sens qu'un être humain ne peut voyager sans un compagnon d'infortune dans son aventure terrestre. Comme en réponse à cette sensation, alors que le train repart, quelqu'un pénètre dans la voiture. C'est une jeune fille charmante, un ange inespéré, qui s'avance dans le couloir sans bagage, cherchant sa place avec son billet à la main. Lorsqu'elle arrive à ma hauteur, elle vérifie le numéro du siège, et je croise son regard au moment où elle éclate d'un rire enfantin. Elle a l'air d'estimer qu'il serait ridicule de se battre pour une place dans une voiture vide. Mais je me décale d'un siège pour libérer sa place. Alors la jeune fille, sans cesser de rire, vient s'asseoir à côté de moi. Un rayon de soleil qui perce un instant la noirceur du ciel illumine son visage. Nous ne nous connaissons pas et nous sommes assis l'un à côté de l'autre dans la voiture déserte. Sans doute trouve-t-elle la situation amusante ou ambiguë sans que cela la gêne. Car quiconque nous surprendrait verrait inévitablement en nous un couple en voyage. Je me dis que cela est peut-être déjà vrai depuis quelques secondes et que, par un simple jeu de place dans la voiture d'un train, je suis passé de la brutalité foudroyante du malheur à la douceur d'un bonheur que je projette vers l'infini.
Alors, est-ce qu'il vaut mieux réserver sa place dans le train?
Voilà, c'est ça.
Ou pas?
Ah, c'est vrai que maintenant on a toujours un numéro de place. Si c'est libre partout, moi je prends rarement le numéro qui m'est alloué ou attribué.
Ah ben voilà, indiscipliné.
Donc il pourrait m'arriver peut-être de me retrouver entre menotté, entre deux policiers.
Des petites choses.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'on vous a fait rêver un peu avec ces petits voyages en train ou en avion et en voiture aussi.
Ah non, on a tout eu au niveau
voilà,
des...
Hein, voilà, des... donc il n'y avait pas le bateau.
Mais, non, c'est vrai.
Bon, mais pour la rentrée, on va vous lire des petites nouvelles de Somerset Maugham, comme on dit en français, mais bon, évidemment, oui. Les Anglais...
Oui, puis comme dans ça. La chanson de Souchon, donc...
Voilà, c'est ça, hein, mais voilà. Et donc là, il y a une des nouvelles qui se passe sur un paquebot, donc...
Ça s'appelle Sur l'eau, d'ailleurs.
Voilà. Eh bien, je sais pas, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais je veux pas... Je peux peut-être te dire, les plus beaux voyages sont ceux que l'on ne fera jamais. Leurs destinations n'ont qu'une limite, celle de l'imagination. Ça, c'est d'un certain Pellegrino Soricelli. Mais c'est un peu contradictoire avec tout ce qu'on a entendu. Un peu d'humour.
Bah
ne,
voilà.
Ne nuit pas.
Bon, alors, je regarde l'heure. Il nous reste 5 minutes. Bon, vous voulez que je vous repasse la petite chanson du début,
oui.
Voyage, voyage.
Oui, on repart en 1987.
Ah, voilà, allez ça va faire du bien. Allez.
On remonte le temps.
Ça va nous rajeunir, nous.
Absolument.
À cette époque-là, on avait quel âge? 30 ans?
15 ans.
Allez, alors, bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.